Bonsoir à toutes et à tous, il est 18h15 minutes à Niamey, c'est l'heure de notre émission hebdomadaire Forum de la presse du studio Kalangou. Un rendez-vous avec nos confrères pour le décryptage des faits ayant marqué la semaine qui s'achève. Pour ce vendredi 14 juin 2024, nous avons trois sujets dont la crise entre le Bénin et le Niger, les bras de fer entre les deux pays voisins continuent. La semaine dernière, les autorités béninoises ont interpellé 5 citoyens nigériens, tous employés de la société WAPCO Niger en mission au Bénin. Niamey, de son côté, a réagi en suspendant l'acheminement de son brut vers le port de Sémé et exige la libération sans condition des personnes interpellées. Les autorités nigériennes ont rétabli des peines de prison pour des infractions de nature électronique dont les injures, la diffamation et la diffusion de données de nature à troubler l'ordre public ou à porter atteinte à la dignité humaine, indique un communiqué du ministère de la Justice le 12 juin 2024. À quelques jours de la fête de Tabaski, le point sur les préparatifs de l'édition 2024, en cette période où on évoque la chèreté de vie et de canicule. Pour décrypter ce sujet, ce soir, je reçois Ousseine Issa-Jibo, journaliste indépendant. Bonsoir Ousseine.
Bonsoir.
Armi Abakari, journaliste à la radio alternative. Bonsoir Armi.
Bonsoir.
Et Soumana Abdoulaye, également journaliste indépendant. Bonsoir Monsieur Soumana.
Bonsoir Tarnan.
À la modération, je suis Tarnan Fouda Ahmed. La technique sera assurée par Issa Lawali. Pour débuter, la tension entre le Niger et le Bénin s'accentue avec l'arrestation de 5 citoyens nigériens et la menace de leur condamnation par la justice du Bénin. Cette arrestation a provoqué la colère des autorités nigériennes qui n'ont pas tardé à réagir en exigeant la libération sans condition de ces personnes, dont Mme Aminu Hadiza Ibra, directrice adjointe de WAPCO Niger et 4 autres membres de sa délégation. Monsieur Ousseine Issa-Jibo, nous allons commencer avec vous. Quelle analyse faites-vous de cette situation?
Je veux dire tout simplement que par rapport à cette arrestation, c'est l'escalade voulue par Talon. Les 5 cadres nigériens qui ont été arrêtés au Bénin, c'est des gens qui sont allés légalement sur le territoire béninois. C'est des Nigériens qui sont allés inspecter comment bien le chargement du deuxième tanker. Comme Talon, considérant qu'il n'arrive pas à faire plier les autorités nigériennes, pour la rouverture de notre frontière, il a estimé qu'il va passer par ce mécanisme-là pour se faire entendre. Mais ce que j'ai trouvé choquant, c'est le fait de considérer ces personnes qui ont été arrêtées comme étant des touristes et des espions. Des gens qui sont connus, il y a même 3 qui sont à la disposition carrément de WAPCO Bénin. On les prend, on les jette en prison, on leur colle des greffes qui ne sont pas fondées. Alors, comment veut-il que la situation change quand il se permet ce genre de choses-là? Ce n'est pas par ce genre de mécanisme-là qu'il peut arriver à contraindre les Nigériens ou les autorités à ouvrir la frontière.
Selon vous, donc, Talon a fait tout ça là pour contraindre les autorités nigériennes?
C'est ça, ça procède de ça. On ne peut pas prendre des citoyens honnêtes qui sont connus, qui ont des profits pour les jeter en prison, au motif qu'ils sont entrés régulièrement sur le territoire béninois. Ils sont allés à l'hôtel, ils sont allés sur le site. On raconte qu'ils ont des faux badges et tout et tout. Ça pose un problème. Qu'est-ce qu'il veut exactement ce monsieur-là?
Mais est-ce que les autorités nigériennes ont reconnu que ces personnes détiennent des badges qui ne sont
pas... Non, ils sont allés légalement sur le terrain. Ils ne sont pas allés de manière frauduleuse. Les autorités nigériennes sont conscientes de ça. Les autorités béninoises sont conscientes de ça. Parce que même le DG de WAPCO Bénin, ils l'ont cité dans leur déclaration que le DG est complice. Comment ils peuvent être complices? Qu'on les qualifie de touristes et d'espions? Alors, là, ça pose un sérieux problème. Tout ça, ça montre qu'il est quelque part téléguidé par les puissances impérialistes. Tu ne veux pas voir notre pays exploiter son pétrole et gagner quelque chose de ce pétrole-là. Voilà un peu la situation.
Monsieur Armi Abba, face à cette situation de fermeture des frontières à l'arrêt des stations de pompage du Koulélé, est-ce que le Niger, qui aurait déjà pris l'argent de ce pétrole, est-il en train de perdre quelque chose?
Évidemment qu'on perd quelque chose. Mais l'être humain a une dignité, l'être humain a des principes qu'il faut faire respecter. Et c'est de cela qu'il s'agit. Parce que, sincèrement, je pense que les autorités béninoises ont franchi un pas. dans cette guerre, vraiment de cette crise qui oppose deux pays frères, deux pays pauvres, deux pays liés pour l'histoire, pour toujours. Parce que là, le Niger a envoyé ses représentants pour contrôler le chargement du brut nigérien au Bénin. Prétendre que ces gens sont frauduleusement rentrés dans leur pays, alors qu'ils sont arrivés par vol régulier. Ils sont sortis, après, on ne sort pas d'un... aujourd'hui, même d'une gare de bus, on ne sort pas sans être contrôlé, à plus forte raison, un aéroport international. Ensuite, ils sont allés, ils étaient tous munis de badges. Étant donné que les badges, ce n'est pas les autorités béninoises qui les délivrent, ils ne peuvent se contenter que des badges de WAPCO qu'ils ont vus. Et s'il y a quelqu'un à qui il faut s'en prendre, c'est bien WAPCO. Mais tu ne peux pas dire que les badges même, certains sont légaux, d'autres non, qui sont frauduleux. Je pense que ça n'a absolument aucun sens. Oui, le Niger a à perdre, mais je pense qu'à ce point, le Niger n'a pas le choix que le choix, parce que nous sommes quand même dans un environnement, dans un climat de souveraineté, n'est-ce pas, de dignité retrouvée, tant clamée par les Nigériens. Et on ne peut pas jeter en pâture des Nigériens qui sont allés représenter le Niger.
Selon vous, qu'est-ce qui motive Talon à se lancer dans cette aventure?
C'est un imbroglio que le simple citoyen aura même demain du mal à expliquer. Toujours est-il que, oui, les autorités nigériennes ont refusé d'ouvrir la frontière avec le Bénin pour des raisons sécuritaires, soi-disant, parce que le Bénin abriterait des militaires de puissance étrangère, n'est-ce pas, où seraient entraînés des terroristes et tout. Ça vaut ce que ça vaut. Nous, Nigériens, on est, ou Béninois, mais aussi, nous sommes très mal positionné pour savoir vérifier la véracité, vraiment dire que c'est vrai ce qu'ils sont en train de dire ou faux. Mais c'est nos autorités qui ont dit et c'est les gens qui ont l'autorité, qui ont le droit de parler à notre nom. Maintenant, en retour, les Béninois, ils ont tout simplement, vous vous rappelez, d'abord, ils se sont opposés au chargement du brut nigérien. Je crois, après, ils se sont ravisés sous la conduite de notre partenaire à tous, les Chinois, n'est-ce pas? Quand les Chinois leur ont parlé, ils ont accepté. Mais maintenant, ce qu'ils refusent, et c'est là où j'accuse sincèrement les Chinois aussi, n'est-ce pas? Je trouve qu'ils sont carrément complices. Ils ne veulent pas que les Nigériens contrôlent le chargement de leur propre
pays. Mais juste avant cette arrestation,
on ne peut pas croire ça.
Monsieur Arumi, juste avant cette interpellation, il y avait un communiqué des autorités béninoises qui ont indiqué qu'ils ont autorisé le chargement des...
Oui, mais le premier bateau, le premier ou deuxième bateau, en tout cas, un ou deux bateaux a quitté, au moins, a été chargé en 48, 72 heures, si je ne m'abuse, n'est-ce pas, a été chargé, n'est-ce pas?
Ça n'atteint pas 72 heures, c'était en 36
heures, n'est-ce pas? Quelque chose comme ça, en tout cas, je me rappelle, oui, je crois que c'est un jour et demi, c'est 36 heures. Le bateau a été chargé et parti. Mais le contrôle, c'est essentiel en la matière. Mais voilà un travail, quelque chose qui est extrait de notre sous-sol, qui nous a pris combien d'années de travail, qui traverse notre pays sur plus de milliers de kilomètres, n'est-ce pas? Ça va sortir et ça n'arrange pas nos deux partenaires, le Bénin et la Chine, qu'on sache exactement combien est sorti. Nous avons vécu un précédent dans ce pays, où des députés sont allés à Zinder, à la raffinerie, et ont été interdits par les Chinois d'accéder à un point où on peut vérifier qu'est-ce qui sort exactement.
Donc on peut dire toute cette agitation autour de cette question pétrolière,
c'est pourquoi je parle
d'imbroglio. C'est pour un souci de transparence.
D'imbroglio, la sécurité, c'est une réalité aujourd'hui dans notre situation, n'est-ce pas? Les autorités nigériennes sont seules à nous dire exactement les raisons pour lesquelles la frontière reste fermée de notre côté, mais de l'autre côté aussi, qu'on empêche aux Nigériens, alors que les accords sont très clairs, que quel que soit ce qui arrive entre les deux pays, le pétrole doit couler, n'est-ce pas? En même temps, on dit non, ça va couler, mais vous, vous ne venez pas contrôler. Mais au nom de qui? Étant donné qu'on tient le bon bout, on empêche le pétrole de couler, c'est à nous là, n'est-ce pas? Au pire des cas, on ne peut peut-être pas faire un autre oléoduc, mais on peut au moins raffiner comme ça se passe à Zender. C'est, sincèrement, sans contrôler, quel que soit ce que ça va rapporter au Niger, moi je pense que le Niger ne doit pas accepter. Maintenant, qu'on n'oublie pas, ce qui est à saluer, c'est le comportement vis-à-vis, par Internet, interposé par les moyens modernes de communication, le cri de cœur des peuples des deux pays. C'est de cela qu'il s'agit.
Monsieur Soumana Abdoulaye, pourquoi tous ces bruits? Pourquoi, selon vous, Bénin essaie toujours de violer les accords relatifs à cette question du pétrole? Selon le CNSP, il y a plusieurs accords qui ont été violés, y compris l'arrestation de ces Nigériens. Pourquoi, selon vous, Talon est dans cette posture?
Bon, la posture de Talon se justifie par le refus de nos autorités de céder à sa volonté, notamment la réouverture de notre frontière, surtout que les militaires qui sont au pouvoir soupçonnent du fait de la présence de forces étrangères pour pouvoir venir déstabiliser notre pays. Soit. Maintenant, Talon, dans ce refus de nos autorités, n'est-ce pas, ne fait que monter les enchères. Ce que je vais dire, je vais faire un peu la chronologie des faits, comment ça s'est passé jusqu'à ce qu'on soit à l'interpellation et à la présentation, n'est-ce pas, aujourd'hui, bon, de ce jeudi, de nos 5 compatriotes devant le procureur de la Criette. C'est que le mercredi 6, si je ne m'abuse, la presse, une certaine presse a déjà commencé à donner sur les réseaux sociaux, les presses en ligne en tout cas que moi j'ai suivi, pour dire que des autorités, des officiels, n'est-ce pas, et selon des sources officielles, le Bénin va lever le blocus, n'est-ce pas, sur le chargement du brut nigérien. On était mercredi. Alors, cette information était intervenue quelques heures avant l'arrivée de nos représentants au Bénin, nos 5 représentants, pour assister, n'est-ce pas, au chargement. Donc, voilà les faits. L'arrivée de nos représentants. Ensuite, on distille une information pour dire que le Bénin va, selon des sources officielles, le Bénin va lever tout blocus. Et dans le journal de 20h à la télévision nationale béninoise, le RTB, et on dit que des sources présidentielles annoncent, n'est-ce pas, la levée de tout blocus par rapport au chargement donc du match. Pendant ce temps, le journal, c'est à partir de 20h. Pendant ce temps, déjà, nos représentants étaient déjà quittés leur hôtel et pour partir avec le DG de WAPO Bénin pour aller au terminal de Semen-Poji pour voir comment est-ce que le chargement va être fait. Et c'est en ce moment qu'on met la main sur eux. Et moi, j'ai cherché à savoir quand j'ai eu l'information que des compatriotes, nos représentants, ont été arrêtés. J'ai cherché à savoir. Effectivement, c'était dans les environs de 21h. Les environs de 21h. Et je crois que même le ministre du pétrole nigérien et son homologue de la justice, quand ils ont fait leur point de presse du jeudi, ils ont dit que c'était aux alentours de 21h qu'ils ont été arrêtés et qu'ils n'avaient pas de leurs nouvelles jusqu'à une certaine heure tard, vers 23h, quelque chose comme ça. Et l'un dans l'autre, c'est que 48 heures auparavant, donc si on remonte du mercredi, on vient au lundi, le gouvernement béninois a sorti une note pour dire que bon, il y a des risques au niveau du port de Semé, qu'il y a des risques d'atteinte à la sûreté de l'État. Autrement dit, si on regarde un peu le cheminement, ça montre que c'est quelque chose qui a été prémédité et monté.
Donc vous voulez dire que c'est vraiment monté d'avance?
En tout cas, tel que moi j'ai suivi la chronologie des faits jusqu'à ce jeudi, où les 5 Nigériens sont devant le procureur spécial de la Criette, tout porte à le croire. Tout porte à le croire. Maintenant, ça, c'est ce que du côté du Bénin, on peut analyser. Mais sur place, ici au Niger également, nous avons des confrères ont pris l'affaire à main pour chercher à savoir ce comportement de Petit Staron. Qu'est-ce qui pourrait justifier ce comportement, un tel état de fait, un tel acharnement vis-à-vis, n'est-ce pas, du Niger? C'est le quotidien L'Enquêteur qui a sorti dans sa livraison d'avant-hier, je crois, pour donner quelques informations par rapport à comment, pourquoi cet acharnement. Et il semblerait que ce serait un deal entre la personne de Patrice Talon et Wapo.
Est-ce que ça, c'est une information vraiment justifiée? Est-ce qu'on peut vraiment se baser sur cette information pour le justifier?
Je crois qu'il faut réaliser cette thèse, n'est-ce pas, de sincérité et de véracité, n'est-ce pas, de cette information. Effectivement, ça reste à vérifier. Mais étant donné que nous-mêmes, nos autorités, on dit que le partenaire qui est au milieu, le partenaire chinois, ne joue pas franc jeu, tout porte à croire que c'est ça. Il y aurait un deal. Pour vous rappeler également, le premier chargement, il n'y avait pas eu la présence des représentants nigériens, encore moins des Béninois. Et c'est Wapo qui avait même pris des journalistes béninois pour aller au moins être témoin du premier chargement du brut nigérien. Pour finir, et pendant ce premier chargement, on aurait appris qu'il y a eu 11 000 barils qui étaient pris par le sieur Talon. Vous comprenez? C'est-à-dire, il y a ce deal-là. Ils ont même dit que Talon aurait un projet de construction.
Ça, ce sont les informations annoncées par la presse béninoise ou bien ce sont des informations annoncées par la presse nigérienne?
La presse nigérienne, bien sûr. Maintenant, pour la presse béninoise que je suis de très près, c'est que le CNSP aurait dans la délégation des espions au nombre de 2. Vous comprenez?
Ça, c'est ce que la presse béninoise
a publié.
Monsieur Abba Armi, durant ses bras de fer des médias des deux pays, s'invite dans cette crise avec de gros titres insultants de part et d'autre. Comment vous jugez le comportement de ces médias?
Moi, je pense que les médias ont tout à gagner à jouer un jeu de sincérité. C'est vrai que le clivage aujourd'hui au niveau des médias, tant nigériens qu'en Afrique de l'Ouest, c'est connu. Il suffit de parcourir la une d'un journal, on sait de quelle tendance est ce journal-là. Mais je crois que ce n'est pas ça le travail pour lequel on s'est engagé, nous tous. L'objectivité, vraiment le traitement des faits, n'est-ce pas, le fait d'amener vraiment nos lecteurs, nos auditeurs, nos téléspectateurs à connaître la véracité des faits tels que ça s'est passé, c'est vraiment de cela qu'il s'agit, c'est ça notre travail. Et on sait que on tient, comme on le dit, nous voulons bien le rappeler, le troisième pouvoir. Nous pouvons mettre de l'huile sur n'importe quel feu et ça va prendre. Ce n'est pas un jeu d'enfant, ce n'est pas une histoire vraiment de quelques billets de banque, encore moins vraiment de quelques vraiment bouteilles de bière à avaler. C'est vraiment extrêmement important. Il s'agit de la sécurité de deux peuples, de l'avenir de deux peuples, vraiment de bien-être de nos populations.
Voilà.
Je crois que Béninois, comme Nigériens, nous devons rendre les faits tels que nous les avons. Nous ne devons pas traiter de l'à peu près. On doit aller, notre responsabilité est engagée en la matière de dire des choses telles quelles sont.
Monsieur Ousseini, est-ce que aujourd'hui les médias ont un rôle à jouer pour amener la sérénité entre les deux pays?
En toutes circonstances, les médias ont toujours un rôle à jouer. Les médias sont un pilier essentiel. C'est calmer le jeu. Essayer de donner l'information, d'avoir les faits. Maintenant, pour les commentaires, comme on dit, les faits sont sacrés, les commentaires sont libres. N'est-ce pas? Essayer de faire en sorte que, bon, on revient à des meilleurs sentiments de part et d'autre. Mais malheureusement, quand on voit un peu ce qui se passe dans la presse béninoise ou une certaine presse béninoise, tendant à faire croire que le Niger est un pays voyou. Ce genre de médias existe un peu partout dans le monde. Ce qui a lieu de faire, c'est un problème de travail de conscience. Parce que je me dis, moi, en tant que journaliste, je ne dois pas envenimer, je ne dois pas mettre de l'huile sur le feu. Faire ce travail-là. Honnêtement. Mais est-ce qu'aujourd'hui, dans l'environnement, dans le contexte que nous sommes en train de traverser, est-ce que tous les médias réfléchissent ou les journalistes réfléchissent à ça? Il y a le mercenariat même dans le journalisme. Et c'est ça qui domine. Alors, à partir de ce moment-là, on ne peut pas éviter, comment dire, être surpris par ce qui se passe au Yogdo, au Bénin, où on paye des gens. On sait que Talon n'est pas dans la logique de créer les conditions pour qu'on puisse ouvrir la frontière. La preuve. On ne peut pas prendre des honnêtes citoyens pour les enfermer. Non. Et des médias à relayer ça. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire?
Donc, on peut dire que les médias ont failli dans cette crise.
Mais non, mais bien évidemment, mais quand les médias balancent que c'est des espions, trois terroristes. Alors, pour des gens qui sont déjà allés plusieurs fois sur le terrain, qui sont connus, ce n'est pas des nouvelles têtes qui sont allées comme ça, c'est des gens qui sont allés régulièrement sur le terrain. Alors, ça pose quel problème? Qu'est-ce que les médias peuvent faire? Quand on se met dans une posture d'être instrumentalisé, bien évidemment, ils sont dans cette logique-là. Comme il en existe aussi ici chez nous, aussi, n'est-ce pas?
Voilà, merci beaucoup à vous trois pour vos réponses pertinentes. Avant d'attaquer notre deuxième sujet, marquons une petite pause. Bon retour au studio Soumana Amadou du studio Kalangou. Selon un communiqué du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme en date du 12 juin 2024, le président du Conseil pour la sauvegarde de la patrie, le chef d'État, le général de brigade Abdourahmane Tchani a signé le 7 juin 2024 l'ordonnance numéro 2024-28 modifiant la loi numéro 2019-33 du 3 juillet 2019 portant répression de la cybercriminalité au Niger. Monsieur Ousseini, pouvez-vous nous parler de cette loi portant répression de la cybercriminalité?
Moi, je pense que c'est un recul pour la liberté d'expression, pour la liberté de presse et tout. C'est un terrible recul. Ça dit qu'on est en train de vouloir mettre de côté karma, l'ordonnance portant des pénalisations des délits de presse. Alors, quand les gens ne réalisent pas, d'abord, la loi sur la cybercriminalité a été dénoncée, n'est-ce pas? Les gens ont dénoncé ça de manière ouverte. Ouais. Aujourd'hui, on vient, on modifie, on renforce encore. Ça pose un sérieux problème. Ça veut dire qu'on est en train de tendre vers une situation où plus personne ne doit parler, plus personne ne doit s'exprimer par ces mécanismes-là, n'est-ce pas? C'est quoi la cybercriminalité? Moi, dans mon entendement, ouais, n'est-ce pas? La cybercriminalité, c'est quand quelqu'un utilise les moyens électroniques pour triander ou escroquer. C'est ça, moi, dans mon entendement. Mais aujourd'hui, on amène ça sur le terrain car mal l'information. Ou tu écris un papier, tu fais quelque chose, on considère que non. Moi, pour moi, ça pose un sérieux problème. C'est une entrave à l'expression libre qui doit prévaloir dans un contexte, même si on n'est pas né. Dans n'importe quel contexte, l'homme est quand même a besoin de ce, quand même de cette liberté là, pouvoir dire ce qu'il pense. Mais si on se met à traquer, considérer que non, voilà, il y a des limites. Mais les limites là, les balises, qui a mis les balises en place? Ça pose un sérieux problème. Et on est dedans. Et cette modification là. Moi, dès que j'ai vu ça, j'ai lu, je me suis dit non. Alors, c'est fini. On veut entraver, créer les conditions pour que plus personne ne s'exprime pour dire ce qu'il pense. Alors que c'est important pour aller de l'avant. S'il n'y a pas de contradiction, on ne peut pas aller de l'avant. En pensant que je suis le seul détenteur de la vérité, personne n'est détenteur de la vérité. Et on est en train de s'installer dans cette situation-là. Et je trouve que c'est dommage. C'est vraiment dommage.
C'est dommage selon vous. Mais c'est Soumana Abdoulaye, vous, à votre niveau, quelle analyse faites-vous de cette loi qui a été modifiée et qui consacre le retour à la peine d'emprisonnement?
Oui, Hussein a dit, hein, c'est un recul grave. C'est un recul. À 14 ans seulement d'observation, ou du moins de mise en pratique, l'ordonnance 35-010 2010 du 4 juin 2010 portant comment est-ce qu'on appelle suppression des délits commis par voie de presse et qui avait fait place, n'est-ce pas, à des peines d'amende. Aujourd'hui, bien avant, en 2019, il y avait donc cette loi sur la cybercriminalité qui était déjà décriée. Et aujourd'hui, au niveau de CNSP, on prend une telle ordonnance pour encore ramener les peines de privation de liberté. Donc, en plus des peines pécuniaires, financières, qui sont très, très, très lourdes. Hein,
oui, justement, la loi a prévu une peine d'emprisonnement de 1 an à 3 ans et une amende de 1 à 5 millions pour toute personne reconnue coupable de diffamation, d'injure par moyen de communication électronique. Est-ce que, selon vous, c'est vraiment sévère?
C'est plus que sévère. C'est vraiment sévère. C'est une loi liberticide, très sévère. Et où est-ce qu'on, d'abord, les peines d'emprisonnement, ensuite les peines de sanctions pécuniaires. Et ça concerne également les journalistes. Les journalistes ils font leur travail de collecte, de traitement et de diffusion de l'information. C'est-à-dire que si le journaliste professionnel digne de ce nom donne une information, a priori, on n'a pas de doute à se poser. Maintenant, si c'est vu sous l'angle de commentaire ou bien d'analyse, on peut estimer que, tout à l'heure, Hussein l'a dit, le commentaire est libre, les faits sont sacrés. Maintenant, c'est des garde-fous plus ou moins que le CNSP est en train de prendre et pour corser encore le fait que bon il y a des dispositions contre l'atteinte à la sûreté de l'État, le non-respect de la dignité humaine, etc. etc.
Voilà. Monsieur Abdoulaye, justement par rapport au respect de la dignité humaine, tel qu'évoqué par cette loi, je voudrais donner la parole à Arumi. Monsieur Arumi, est-ce qu'au nom du respect de la dignité humaine, on peut restreindre la liberté de telle façon?
Non, on ne limite pas, mais on crée justement des lois, n'est-ce pas, pour cadrer les choses. C'est ce qui a été fait en ce qui concerne la cybercriminalité, les exceptions ou vraiment les réserves soulevées par Hussein. Je suis d'accord avec lui, cette loi ne devait même pas être appelé la loi de lutte contre les infractions commises par voie de masse. Donc, mais partout, il y a un règlement. Quand il n'y a pas un règlement, autrement dit, tout est permis aussi. C'est comme s'il y a un règlement et qu'on permet au juge ou au plaignant, n'est-ce pas, de poser n'importe quel problème. Mais cette loi a une histoire. Les autres ont eu à le rappeler. Après 2010, c'est ça ? Il y a eu aussi, la loi là-même a été révisée en 2022, n'est-ce pas, où la peine a été allégée, je dirais, relativement. Même en son temps, on a encore dénoncé cela, parce que la peine de prison a été écartée et il y avait l'amende. Mais l'analyse à l'époque, déjà, c'était de dire que si la personne n'arrive pas à payer, ça peut l'amener en prison. Et donc, il fallait peut-être enlever ça aussi et remettre les gens entre les mains des confrères où vraiment la loi des pères, en fait, aux pères de régler, le tribunal de pères pour régler les choses. Mais au lieu de s'attendre à ça, c'est vraiment comme c'est tombé, comme vraiment par ça a été parachuté comme ça avant-hier, on a vu, et tout est revenu. Et l'emprisonnement et l'amende. Déjà, l'amende, c'était assez suffisant pour les Nigériens, parce que ce n'est pas tous les Nigériens qui ont 5 millions ou 1 million. Déjà, donc, pour dire quoi que ce soit sur Internet, on ne se le permettait pas, n'est-ce pas? Et c'est des sujets à interprétation. La diffamation, c'est toujours un sujet à débat. C'est quand est-ce qu'on a diffamé quelqu'un, quand est-ce qu'on ne l'a pas diffamé? L'injure, au moins, on sait à peu près ce que c'est. Mais atteinte à la sûreté de l'État, pas atteinte à la sûreté de l'État, troubler l'ordre public. Mais ça, c'est un bateau. C'est un bateau. Quand est-ce que, c'est-à-dire, on donne libre choix au juge de dire que oui ou au plaignant de dire que non, un tel a troublé l'ordre public. Parce que normalement, quand quelqu'un a troublé l'ordre public, est-ce qu'il a suscité un affrontement? Et on interprète sur cette base-là, on emprisonne des gens déjà. Et donc, c'est une sorte d'épée de Damoclès sur la tête de tout un chacun qui est usagé de ces outils modernes et qui empêcherait aux gens vraiment de dire ce que tu penses même. Et parce que ça peut être interprété. Et quand on dit susceptible de troubler l'ordre public, bon, personne ne sait au fond qu'est-ce que ça veut dire, à mon avis. Et donc c'est de cela qu'il s'agit. Et vraiment, c'est un recul extraordinaire, vraiment énormissime en matière de liberté d'exercer notre travail, particulièrement nous journalistes.
Voilà, justement citoyen, par rapport à nous, M. Ousseini, selon vous, quelle est la catégorie des personnes qui est la mieux exposée face
d'abord,
à cette
c'est
loi
les journalistes, oui, mais maintenant, il y a aussi il y a les journalistes qui on sont exposés. Ça. Mais il y a également aujourd'hui, il y a les journalistes, le journalisme citoyen. Oui. Tout le monde est journaliste aujourd'hui. Tout le monde. Tout le monde à travers les réseaux sociaux qui sont développés, tout le monde est devenu journaliste. Ce n'est plus une profession qui est détenue par une catégorie de gens.
Non.
Ils sont encore beaucoup plus, c'est cette catégorie de journalistes-là, journalisme citoyen, ils sont encore plus nombreux que les journalistes qui vivent de ça. C'est des gens à travers les téléphones,
oui,
qui fait l'information. Alors, les cyberactivistes, à partir de cet instant, tout le monde est en danger.
Oui.
Ce n'est pas simplement, ceux qui sont officiellement dans des rédactions, qui font un travail dans des radios, ou dans des télévisions ou dans des journaux. Mmh. Tout le monde est concerné par cette situation-là. Et c'est dangereux quand on installe ce genre de choses dans un pays.
Voilà, en une minute, M. Abdoulaye Soumana, est-ce que dans cette période de la refondation et de la quête de la souveraineté, on a besoin de telles lois?
Non, on n'a pas besoin, surtout que la loi, l'ordonnance 2010-035 du 4 juin 2010 a été prise par les putschistes, c'était au temps de Salou Jubou. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de regarder dans la même direction. C'est vrai, il faut encadrer, mais quand même aller jusqu'à prendre un truc où tout le monde est... Personne n'est à l'abri aujourd'hui d'être emprisonné, hein, et à des peines lourdes également. Non. On espère que peut-être qu'ils vont essayer d'entendre raison, hein, peut-être qu'ils peuvent revoir la copie.
Bon, peut-être ils vont revoir la copie. C'est sur ces propos de Souman Abdoulaye que nous allons marquer une pause. Voilà, la troisième et la dernière partie de ce forum est consacrée à la fête de Tabaski 2024. Les préparatifs vont bon train. Chacun se débrouille pour avoir les moutons à immoler. On estime que le contexte économique est difficile. Je reviens vers vous, M. Ousseini Issa. Tabaski 2024, c'est dans moins de 72 heures. Quelle est votre observation sur les préparatifs de la fête?
Mon observation, c'est que ça intervient dans un contexte de précarité financière. La situation est là. S'il n'y a pas salaire d'ici là, il reste 3 jours ou 2 jours. Alors s'il n'y a pas salaire, ça veut dire que bon, ça va se faire dans la précarité. Il n'y a pas de doute. La preuve, il n'y a pas de bousculade dans les marchés des moutons. N'est-ce pas? Parce qu'il faut faire le choix. C'est le mouton ou c'est
le riz,
le quotidien, le riz et tout. C'est ça le problème. Est-ce que les gens sont dans cette dynamique-là? Moi, je me suis amusé à demander à des vendeurs de moutons, les vendeurs ambulants, qui se plaignent. Qu'est-ce qui se passe? Les gens n'appellent plus pour demander des prix. Même pour marchander, les gens n'appellent. Mais les gens ne peuvent pas, j'ai dit. Mais les gens n'appellent pas parce qu'ils n'ont pas l'argent. J'ai eu mon salaire à la fin du mois. Je suis allé, j'ai payé mon loyer, j'ai payé l'eau, j'ai payé l'électricité. Mais qu'est-ce qui va rester? Alors que le prix aussi de l'autre côté, le vendeur de moutons, c'est des prix
exorbitants. Mais paraît-il que les moutons sont abordables?
Mais c'est ça on dit. C'est, oui, mais bien évidemment, les gens disent que c'est abordable. Abordable par rapport à quoi? À quel revenu? À quel revenu? Parce que c'est aussi ça l'enjeu. On connaît les salaires dans ce pays, c'est des salaires qui sont faibles. C'est pas un pouvoir, c'est pas des salaires importants ou comment on appelle ça. On peut compter les gens qui gagnent, en dehors des politiciens bien évidemment, et ceux qui sont dans des systèmes. Il y a très peu de gens qui gagnent autour de 500 000 francs.
Sauf que pour les politiques, les activités sont suspendues.
Mais il n'y a plus de politique, n'est-ce pas? Il n'y a plus. Mais alors, si je prends le peu que j'ai pris là, je vais aller payer le loyer, je vais payer l'eau, je vais payer l'électricité. Mais alors, je vais faire le mouton, je vais m'acheter le mouton, me dit à 100, même autour de 5 000 francs. C'est-à-dire, ou en dessous, un peu en dessous de 5 000. Qu'est-ce que je dois faire? L'option est vite faite. Je vais régler d'abord ce qui est existentiel avant de songer à aller chercher. Acheter un bélier, n'est-ce pas? Parce oui, que le peu qui va me rester là, quand je règle tous ces détails-là, est-ce que ça me permet d'accéder au bélier? Voilà la situation dans laquelle se trouvent les gens. Et voilà la situation qui fait que les vendeurs de moutons aujourd'hui, ils sont dans des difficultés. Ils ne circulent même plus, ils s'assoient. Quand tu trouves de l'ombre, ils s'assoient.
Ils attendent.
Visiblement, il fait chaud partout. Manque d'argent s'ajoute encore la canicule. Monsieur Abba Arimi, durant cette fête, on utilise beaucoup de bois pour la grillade des moutons, ce qui n'est pas sans conséquence sur l'environnement selon les spécialistes. Selon vous, quelle est la solution pour réduire l'utilisation du bois pour les jours de la fête?
Bon, depuis quelques années, il y a des vendeurs, ou je ne sais plus, là, c'était la Sonichar, ou en tout cas, des gens qui ont initié la mise à disposition du charbon minéral, n'est-ce pas, pour la grillade. Parce que avant c'était fait systématiquement avec du bois et des tonnes de bois étaient brûlées à cette occasion. Les gens sont parvenus à démontrer que c'est avec le charbon ou minéral ou même le charbon de bois, c'est beaucoup plus économique. Parce qu'un sac peut suffire pour griller 4 moutons, sinon plus. Et puis, même le charbon de bois, c'est mieux grillé et c'est moins de fumée. Et ça prend moins de temps aussi pour griller. Donc, je crois que depuis un certain temps, en tout cas à Niamey, bon, c'est vrai qu'à l'est du pays, par exemple, les gens ne grillent même pas en réalité. À partir de Zender jusqu'à Difa, moi je sais que les gens ne grillent même pas. C'est la viande crue comme ça qui est divisée, qui est partagée la deuxième journée. Mais toujours est-il que les gens doivent faire attention, n'est-ce pas, à utiliser autre moyen que le bois surtout, parce qu'il nous en manque et on a connu vraiment beaucoup de chaleur cette année. La température de 30, 48 degrés, c'était pendant des jours. Et on en a souffert avant les premières semaines, vraiment, en fait, ces dernières semaines où on a eu les premières pluies. Et donc, ça ne peut que se poursuivre et c'est un moyen de retarder vraiment l'adaptation au changement climatique que de ne pas utiliser beaucoup de charbon de bois surtout. Vraiment pour cette fête-là. C'est vrai que c'est une occasion, c'est un jour, mais c'est comme si chacun utilise peut-être le bois du mois qu'il a l'habitude d'utiliser en un seul jour, quoi. Donc c'est des moyens, il faut résister. Toujours est-il que, bon, par rapport au coût, je pense que nécessairement cette année, ça sera un peu moins cher parce que tout simplement la frontière avec le Bénin est fermée. Le Nigeria, la Naira est au plus bas. 1000 francs tournent autour de 2300 Naira sur le marché noir en tout cas. La frontière du Burkina n'est pas praticable en tout cas pour les transporteurs de moutons. Et donc nous qui sommes les plus grands pourvoyeurs de la sous-région, n'est-ce pas, nous serons obligés de consommer nos moutons. Et ce qui fait que la loi de l'offre et de la demande aidant, surtout la chérité de la vie aidant, et on le sait en tant que musulman que notre prophète, paix et salut sur lui, a déjà égorgé sur nous. Pour nous, l'impossible, nul n'est tenu. Et certainement, et malheureusement, des pères de famille seront amenés à ne pas égorger. Mais le coût sera, je crois, que moins de 10 ans par rapport aux années passées.
À votre niveau, M. Abdoulaye Soumana, la chérité de la vie, la chaleur, les commerçants, les vendeurs de moutons qui n'arrivent plus à sortir hors de nos frontières, vu les contextes, en faisant le cumul de tous ces aspects évoqués par Abba Arumi, quel constat vous faites?
Non, le constat... Moi, je dis que les moutons vont chômer. Beaucoup de moutons vont chômer. La précarité est dans le pouvoir déjà d'achat des citoyens. Ça fait bientôt des mois. Vraiment, reste à désirer. Ça, il ne faut pas se leurrer. Et Seigne également a fait tout à l'heure une priorité par rapport à prioriser les dépenses. Je crois que mieux vaudrait régler d'abord ses propres problèmes avec le peu que l'on a, que de penser à immoler le brebis. Donc le jour de la fête, encore que ce n'est même pas une obligation religieuse, c'est vrai, c'est une sunna du prophète. Et Rémi vient également de le dire que le prophète, notre prophète, paix et salut sur lui, Mohamed, a déjà égorgé pour ceux qui n'auront pas, n'est-ce pas, la possibilité, le pouvoir, n'est-ce pas, donc d'observer, n'est-ce pas, et de sacrifier ce mouton. Maintenant, par rapport à l'utilisation du bois de chauffe ou bien de charbon, c'est que il faut reconnaître que depuis des années, et c'est la tendance à l'utilisation du charbon minéral et qui coûte moins cher. Le sac, sans faire de la publicité, c'est 2500 francs. Et également, le pouvoir calorifique pour la grillade est très important par rapport à comparer au charbon de bois. Donc, tous ces aspects montrent que, bon, on peut dire que on ne souhaite que bonne chance, bonne fête aux uns aux autres. Vraiment, pour la fête qui serait prévue pour le 16, hein, le dimanche 16, Inch'Allah.
Merci. Voilà, bonne fête à toutes et à tous. Nous sommes à la fin de ce forum de la presse des studios Kalangou, à la présentation, modération, Jordan Fouda Ahmed. Arumi Abba, journaliste à la radio alternative, était avec nous. Hussein Issa, journaliste indépendant. Abdoulaye Soumana, également journaliste indépendant. La technique a été assurée par Lawali Issa. C'est sur ce. Je vous souhaite un excellent week-end et d'avance, bonne fête à tout le monde.